Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ça, c'est de la vue! Oh, c'est magique, ça!
C'est absolument dément.
Le spot est juste incroyable.
Ça joue bravo à quelques centimètres!
Et s'enfoncer un peu dans la forêt.
Oh, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène aux États-Unis. Mais je t'emmène aux États-Unis dans un état qui commence d'ailleurs à être de plus en plus tendance, qui ressort un peu plus dans les envies des voyageurs d'aller le découvrir, mais dont on n'entend pas tant encore parler que ça. C'est la Caroline du Sud. Et ce qui est sympa, c'est que d'habitude, j'ai des voyageurs que je reçois dans ce podcast. Bah là, je reçois quelqu'un qui y vit, qui en plus est un Américain qui ne vivait pas là à la base, qui allait y vivre, qui a un commerce absolument incroyable puisqu'il a monté un resto de fou là-bas. Je suis avec le chef Bob Wagner. Comment ça va, Bob?
Ça va super bien. Super bien.
Je suis trop content de te recevoir sur ce podcast parce que justement, c'est la première fois que, au lieu d'avoir un voyageur, on a quelqu'un qui vit vraiment dans le lieu dont on va parler, donc qui est la Caroline du Sud. Alors, pour ceux qui ne savent pas bien, parce que quand on est en France, la Caroline du Sud, on ne sait pas trop bien le placer, c'est un peu au-dessus de la Floride. Il y a un état entre les deux, c'est la Géorgie. Mais en gros, quand tu prends la Floride, donc qui est tout en bas à droite des États-Unis, tu remontes un peu et tu es en Caroline du Sud. Et ce qui est fou, c'est que la Caroline du Sud, on ne croirait pas comme ça, mais c'est un état côtier. Donc il y a toute une partie qui est au bord de la mer.
Et... Ah oui, c'est...
Ouais, c'est au bord de la mer. Et justement, ouais. Avant qu'on rentre un peu dans le sujet de la Caroline du Sud, est-ce que tu peux, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, et vu qu'en plus on est en audio, nous décrire à quoi ça ressemble la Caroline du Sud? C'est quoi les paysages? Parce que tu vois, si je te dis la Floride, en gros, les gens en France, ils vont se dire « Ok, Everglades et plage un peu au bleu turquoise. » Caroline du Sud, c'est quoi?
Bah là, là, si on remonte, si on est dans le Key West et on remonte la côte en bateau, on pourrait faire aussi, hein. Et on passe la Géorgie, et après, on a la Caroline du Sud, et on a pas les eaux turquoises et bleues comme ça, heureusement, parce que s'il y avait des eaux turquoises comme ça, j'aurais pas assez de sous pour vivre là. Parce que là, ça coûte très cher, mais nous, c'est magnifique. Donc la ville même, c'est Charleston, Charleston, Caroline du Sud. Et c'était un des ports les plus importants des États-Unis dans les 1800, quoi.
Ouais.
Et donc, le port, c'était très important. Tout venait par l'eau à l'époque, quoi.
Ouais.
Donc, c'était très, très... tout le monde s'intéressait d'avoir Charleston, quoi. Et le premier balle de la guerre civile des États-Unis, c'était à Charleston. Donc, les maisons magnifiques, des très, très belles maisons au bord de l'eau. Et il y a une baie, finalement, et deux grandes rivières qui remontent aussi. Donc, c'est tout autour de l'eau, tout tourne autour de l'eau, finalement.
Ah,
et
okay.
Bon, il y avait du coton, mais surtout, il y avait du riz. Le riz, c'était vraiment le plus important.
Mais du coup, ça veut dire que, en gros, si tu prends la côte, donc déjà, il y a plein de plages. En fait, c'est ça qui est dingue. Et c'est marrant, ce que tu dis, c'est qu'en plus, c'est un état qui est... Parce que ça, quand on voyage, c'est quand même un critère qui est quand même assez sympa. C'est moins cher, c'est beaucoup moins cher que la Californie, c'est ça?
Beaucoup moins cher, beaucoup moins cher.
Alors ça, c'est très bien. Quand on voyage, c'est bon pour le portefeuille.
C'est très européen, quoi. C'est ça,
ah ouais,
c'est plus important, plus intéressant, parce qu'on va en Floride. Moi, je connais la Floride aussi. C'est un peu partout, tout le monde, quoi. C'est un peu comme partout, quoi. Que la Caroline du Sud, si on voit, si les gens ils regardent Charleston juste sur l'internet, ils regardent vraiment des belles maisons, les belles demeures. Et
ça ressemble à quoi, du coup? C'est genre les anciennes maisons coloniales, un peu de couleurs, un peu différentes couleurs, c'est ça?
Voilà, un peu Gone with the Wind. Je sais plus comment on dit
autant on emporte le vent, ouais.
Ouais, j'aurais jamais trouvé ça, mais voilà, c'est ça. ça, c'est tout à fait ça. C'est la ville du Sud, c'est les grandes plantations de sauf qu'il y avait l'histoire des esclaves et tout ça, c'était beaucoup passé là. Donc des très très grandes maisons, des très belles maisons. Donc des gens qui avaient des maisons au bord de l'eau pour l'été, et puis les plantations l'hiver où ils faisaient leur l'argent avec le coton, le riz.
Est-ce que c'est un petit peu comme, tu sais, j'ai une image un peu justement dans Forrest Gump, tu sais, quand t'as les grandes allées avec des grands arbres immenses et tout.
Exactement, les chênes.
Ah,
les
c'est là-bas aussi.
Exactement, bah voilà, c'est Forrest Gump. Forrest Gump, c'était, il y en a beaucoup qui étaient filmés à Charleston, à côté de Charleston, comme ça. Donc il y a plein, et puis c'est très 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 peu touché, quoi. S'il y a personne, moi je viens de Los Angeles, des gens ici ils commencent à se plaindre de trafic, de tout ça. Je dis bah vous savez, le trafic, moi je viens de Los Angeles, c'est pas du tout pareil. Il y a personne, donc c'est calme, il y a personne. Les plages qui font 100 mètres de largeur, quoi, et il y a personne au bord de l'eau, quoi. C'est magnifique. Et il fait super là, il fait 60 degrés aujourd'hui.
Alors 60 degrés Fahrenheit, hein, parce que je ne sais pas comment ça fait en Celsius, mais ça doit être très agréable.
Ça doit être 15, 18 et on est...
Ah oui, t'es en novembre. Ah, au mois de décembre. Ouais, c'est vrai qu'on est au mois de décembre. Et attends, mais et l'intérieur du pays, parce que ça, c'est justement, c'est un peu tout ce qui est au bord de la côte, tout ce, comme tu dis, là, le port, Charleston. Quand tu rentres dans les terres, j'avais cru voir, en regardant vite fait, justement, moi, j'ai pas trop voulu me spoiler l'épisode, mais il y a même des... pas mal de rivières et des lacs, ça ressemble à quoi en
beaucoup,
fait
beaucoup de rivières, tout à l'époque ça passait à travers l'eau, quoi. Donc tout ce qui était le coton, le riz, ça venait, ça passait, ça montait, et il y a les tides, les marées qui font 2 mètres par jour, quoi. Mais seul petit truc qui est pas aussi sympa que la Floride, c'est qu'on n'a pas de l'eau aussi jolie, quoi. C'est pas de l'eau bleue et tout
ça, mais si je comprends bien, en gros, ce qui est super sympa, c'est que aussi dans l'état, à l'intérieur des terres, tu as des rivières, tu as un réseau de canaux en fait où tu peux aller te balader aussi, et tu es en plein milieu de la végétation. Ah, ok.
Et alors, pêcher. Et puis surtout dans les rivières, dans les lacs comme ça, c'est il y a plein de dauphins et ils se baladent autour de nous. On est en bateau. Moi, je passe la moitié de mon temps, les jours de congé, c'est sur le bateau. Et même si on pêche pas, il y a les dauphins à côté de nous qui traînent, qui apprennent à leurs petits à pêcher et tout ça. C'est vraiment, c'est un endroit surtout très peu touché et très européen, quoi. Donc les gens qui viennent, surtout les Européens, les Français aussi, parce que comme ma française, on a plein de copains. Et puis il y a 2 ans et il y a 5 ans, je suis allé en France et en Italie pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est le sud des États-Unis, parce qu'il y a des gens, les Européens, qui aiment bien. Ils ont fait New York, ils ont fait Chicago, ils ont fait Los Angeles, ils ont fait Epcot et tout ça. Et ils aiment bien les États-Unis, surtout en plus, c'est pas très très cher. Et puis les gens sont très sympas. Et surtout, c'est ce qui est bien, c'est que on peut se balader, on peut. Et les gens sont très chaleureux, 1000 fois plus que Los Angeles.
C'est ça que j'allais dire, parce que toi, tu étais à Los Angeles, ok? LA, la destination phare, que ce soit en tant que destination touristique ou même de vie aux États-Unis. Tu es parti en France plusieurs années. Qu'est-ce qui t'a fait choisir? En fait, pourquoi tu as décidé de t'installer là? Parce que nous, en tant que Français, la Caroline du Sud, on entend un peu plus parler, de plus en plus, ça devient tendance, mais assez peu finalement par rapport aux autres États. Mais toi, je pense qu'à l'intérieur des États-Unis, c'est un peu comme si nous, on disait, tu vas dans la Creuse ou en Auvergne, c'est vraiment le petit État un petit peu…
plus le bonbon.
C'est ça qui est fou, c'est ce côté où c'est vachement préservé, c'est vachement nature, mais il y a de la vie. Pourquoi tu as été là-bas?
Et franchement, c'était le travail. Je suis allé en France à 18 ans en disant que j'allais rester un an pour apprendre la cuisine. Et je suis revenu 11 ans après avec une femme française et une fille née à Boulogne, quoi. Donc, je suis revenu pour revenir aux États-Unis. J'avais un travail à côté de Fort Lauderdale en Floride. Ça me plaisait pas du tout, la ville même, ça me plaisait pas du tout, et la clientèle, c'était pas pareil. J'étais chef de cuisine dans un 2 étoiles Michelin à côté de Beaune, et c'était exactement l'extrême contraire de ce que c'était en France, quoi. Et j'ai voulu revenir, et puis ça n'allait pas trop en France à l'époque, c'était un peu dur, donc je suis revenu aux États-Unis. Après, j'ai eu la chance d'aller à Nashville, dans le Tennessee, pendant 3 ans, dans un endroit magnifique aussi. Et malheureusement, le propriétaire, il est décédé, et donc c'était fini ce restaurant. Et un grand hôtel à Charleston qui cherchait de l'Orient Express, qui cherchait le chef, et puis il voulait que moi je viens, donc je suis venu, et ça fait 25 ans maintenant. J'ai fait 10 ans, 11 ans avec eux, j'ai fait 2 petites émissions de télé sur PBS aux États-Unis.
Et, ah, ok.
Et les gens sont tellement chaleureux, sont tellement gentils. C'est un peu la différence entre Paris et le Morvan. J'étais à Avalon en France, et des gens sont... C'est un village, quoi. C'est comme un village en France. Les gens, ils viennent, ils sont fous si tu viens dans le magasin. Ils sont fous si tu veux acheter quelque chose. Mais ils veulent parler où vous êtes. S'il y a quelqu'un qui cherche quelque chose dans la rue, on les voit avec leur plan. Des gens, ils m'ont arrêté en disant « Alors, qu'est-ce que vous cherchez ?»« Ah non, c'est deux rues plus loin, vous tournez à droite. » Les gens, ils ouvrent la porte pour les gens, ils ramassent un truc par terre.
Toi qui viens de Californie, ça a dû te faire bizarre.
Jour et nuit. Des gens, ils disent « Ma'am, monsieur, madame ». Les jeunes, ils ont quand même le respect pour les vieux, je veux dire, pour les plus âgés.
Pour les seniors, on dit les seniors. C'est beaucoup plus classe.
Moi, je parle un peu comme une vache espagnole, comme elle dit toujours ma femme. Mais j'ai le français du cuisine, quoi, si on veut.
Ouais, mais ça marche bien. Et justement, ta femme, ce qui m'intéresse aussi, elle qui a vécu toute sa vie en France, elle arrive aux États-Unis. Bon, ça va drouiller un petit peu sur tes premiers jobs, mais vous atterrissez en Caroline du Sud. Je pense que vous parlez un petit peu. Qu'est-ce qu'elle aime finalement? C'est quoi qu'elle aime en Caroline du Sud qu'elle n'avait peut-être pas en France?
C'est dur pour une Française de quitter sa famille. C'était très très dur. Ouais. Ça c'est toujours très difficile. Mais les gens sont très chaleureux ici. Qu'en France, je vais dire que c'est pas très facile toujours de rentrer dans les copains, de rentrer des trucs comme ça. Qu'ici. Ouais. Des gens, et c'est exactement le contraire, quoi. Un peu, on va dans un dîner, et des gens, ils racontent un peu toute leur vie, des trucs comme ça. Ma femme me dit, bah, dis donc, elle a raconté des trucs sur sa vie. Mais vite à manger le midi, ou venir avec elle, sa fille, elle a un match de foot, ou un truc comme ça. Bah, viens, Christine, tu n'as pas de copine, bah, viens avec nous. Et puis ça a aidé énormément, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Je disais en France, entrer dans les... Pour quand même connaître quelqu'un avant qu'il t'invite chez toi ou des trucs comme ça. Donc, ça a aidé énormément. Et puis, il y en a beaucoup de Français. Il y en a beaucoup. Il y a Michelin, il y a un grand magasin, un grand compagnie, comment on dit Michelin,
une grande société.
Ouais. Société. Bah, Michelin, ils sont à Greenville, c'est à 3 heures d'ici. Donc, quand ils ont commencé le Michelin, ils ont ramené quand même beaucoup de Français. Donc, les Français Michelin de Greenville, dans la Caroline du Sud, ils sont venus là pour la retraite. Donc, il y a une alliance France, il y a des trucs comme ça. Donc, il y en a peut-être 1000 Français à Charleston. Donc, et on les connaît tous. Donc, ça aide aussi. Mais c'est surtout de la gentillesse et puis de pas se moquer parce qu'elle parle pas très bien l'anglais. Bon, moi, là, ça fait 25 ans, elle parle vachement bien. Mais,
alors, des deux. Est-ce qu'elle parle mieux anglais que toi, tu ne parles français ou l'inverse?
Oh non, moi je parle beaucoup mieux français qu'elle en anglais. Hein.
Ça, ah ouais. Et puis après 25 ans ? Parce que toi t'as eu 10 ans.
Hein, oui, mais là maintenant ça fait 25 ans qu'on est mariés et puis on parle français tous les jours. Donc non, on se blague là-dessus parce que et ma fille elle a 28 ans maintenant aussi. Donc c'est souvent qu'on fait des trucs. Elle cherche des mots ou elle raconte un peu en franglais un peu. Donc on se moque d'elle, mais bon, elle est vachement contente. C'est très dur parce que tous les ans, on retourne en France et avec cette connerie de Covid, ça fout tout en l'air, quoi. Donc,
j'imagine. Et j'aimerais qu'on rentre un peu dans ton univers, celui de la gastronomie. Tu sais, surtout les Français, nous, la gastronomie, dans l'esprit des Français, la gastronomie américaine, c'est du burger, c'est de la grillade. Ouais. Alors qu'on sait très bien que dans justement ces petits États, quand on sort des grands états un peu connus qui finalement ont des restaurants partout dans le monde, mais il n'y a pas une vraie gastronomie vraiment locale. Je crois que c'est
ouais.
En Caroline du Sud, je crois qu'il y a vraiment une spécificité, ce qu'on appelle une scène gastronomique. Il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi en fait les spécialités? Est-ce que tu peux nous mettre l'eau à la bouche?
C'est ce qu'on travaille beaucoup, on appelle le low country. Donc c'est très très bas. Il y a même les endroits downtown Charleston quand s'il pleut pendant 3 jours et il y a les grandes marées où il y en a des très grands 2-3 fois par an. Il y a un tiers de la ville où il y a 1 mètre d'eau.
What?
1 mètre d'eau partout. Hein. Des voitures ils tournent pas. Il y a les mecs qui passent en kayak pour rigoler dans le marché. comme ça. C'est vraiment le low country. Les endroits, c'était construit et prolongé. Ils ont ramené du sable, ils ont construit des maisons, ils ont construit parce que c'est vraiment très, très, très joli. Et on a du temps magnifique. Et à côté de ça, on a de la mer. C'est comme d'être à Nice, quoi. Ouais. Il y a tous les produits de la mer, quoi. Donc, il y a les crevettes. Magnifique, magnifique, les pêcheurs de crevettes qu'on voit.
Ah, mais comme dans Forrest Gump.
Mais comme Forrest Gump, c'est exactement. C'est Charleston, c'est Forrest Gump. On voit les pêcheurs comme ça, les mecs qui traînent les filets au bord de l'eau. On est à la plage en train de se faire bronzer et il y a le pêcheur, il est à 200, 300 mètres de nous en train de traîner les filets pour choper les crevettes, mais magnifiques, magnifiques. Et puis, plein de poissons locaux, les plis, on a des plis locaux comme ça.
C'est beaucoup de poissons, vu que t'es au bord de la mer.
C'est un red dip, on appelle ça. Et puis, ce qui est très dur, parce que ce qu'on voit, je me rappelle, moi, je suis venu en France en 83, donc tous les cuisiniers, les gars, ils connaissaient ce qu'ils ont vu à la télé, quoi. Donc, ce qu'ils ont vu sur Dallas, ils ont vu des gens en train de bouffer dans leur voiture, en train de manger les burgers, des trucs comme ça.
Ouais,
c'est jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. On a quand même, les gars comme moi je suis allé en France, j'aurais resté si ça allait pas trop mal. Mais j'ai travaillé dans les 2 et 3 étoiles Michelin, dans les grandes maisons. Et des gens, ils aiment bien, des gens, ils veulent manger, des gens, ils ont du pognon, des gens, ils sortent. Comme je disais l'autre jour, il y a un client hier soir, il m'a dit, comment ça se fait en France? Comment ça se passe? Ils ont du mal dans les restaurants. Et je dis, tu sais, ma belle-mère, elle va pour son anniversaire et pour la fête des mères et peut-être une autre fois dans l'année dans un restaurant. Tu vois, à Charleston, moi, j'ai des clients. Il y a des gens qui mangent 4 fois la semaine au restaurant.
Ah ouais? T'es bon. C'est quoi tes petits plats là? Parce que moi, je veux que tu mettes l'eau à la bouche. Là, tu m'as dit qu'il y avait des crevettes, qu'il y avait des poissons, mais c'est quoi les petits plats?
On a des cailles. Il y a une très belle compagnie qui élève les cailles, qui élève les pigeons. Que ce qu'on dirait, c'est pas les Américains qui vont bouffer les pigeons, quoi. Mais c'est ça. Il y a un gars qui fait 7000 pigeons la semaine. Donc, t'imagines, c'est quand même. Donc, ils en vendent dans les États-Unis un peu partout. Donc, on a quand même beaucoup changé. Et on travaille aussi les grits. C'est un peu comme la polenta. Et ce qu'ils font, c'est ils font pousser du maïs. Et ils laissent sécher sur le, je sais pas comment on dit, sur le pied, si on passe en l'hiver, moi je suis sûr que c'est un Français, un fermier français, il passait, il me dit, dis donc, l'autre, il a même pas ramassé son
maïs.
Son maïs. Bon, on laisse sur le pied, et puis quand les chefs, ils ont besoin, ils prennent, et ils font broyer à la minute, si on veut. Et ça, c'est au lieu d'avoir la polenta qui est séchée, qui a peut-être 2-3 ans dans une machine, un truc comme ça. Donc, on fait broyer, ça s'appelle les grits. Et c'est du maïs. Et puis, c'est comme la polenta, mais c'est écrasé. C'est pas très, très fin. Et, ouais. Et ça fait un jour de polenta, mais très frais. Et ça donne un super goût de maïs. Et c'est souvent le plat principal de Charleston, c'est le shrimp and grits. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai travaillé un peu là-dessus, où je ferai les riz de veau avec les grits comme ça, avec un petit jus de truffe, des trucs comme ça. Donc, ma façon à la française travailler, parce qu'il y avait les huguenots aussi à Charleston à l'époque, il y avait beaucoup de Français.
Ils sont venus jusque-là, les mecs.
Et voilà, les mecs, ils sont venus jusque-là. Et ça aussi, il y a beaucoup de les gens qui élèvent les poulets. C'est vraiment c'est un peu comme la France pour moi. Il y a beaucoup de produits et les gars qui aiment bien travailler les poissons locales et les fermiers qui font du beurre, de la crème fraîche, des trucs comme ça, les fromages locaux aussi. C'est jour et nuit de ce que, quand je suis parti, hein, en 83, jour et nuit. Et maintenant, il y en a beaucoup qui ont voyagé, les jeunes chefs qui ont travaillé en Italie, ont travaillé en France, en Allemagne, et puis ils reviennent. Et puis ils apprennent aux gamins, et puis les gamins ils font d'autres chefs. Donc il y a quand même des très très bons. Beaucoup de parties grâce aux Français qui sont venus aux États-Unis, de New York, Chicago, de Los Angeles, de tout ça. Donc il y en a plein, mais ça a quand même énormément changé. On peut très très bien manger, surtout. Et les gens ils me demandent tout le temps pourquoi à Charleston il y a tellement de bons restaurants. Parce qu'on a du tourisme. On a 7 millions, 8 millions de personnes qui viennent visiter Charleston par an.
Ah ouais! Ah, ça veut dire que c'est déjà. En fait, quand je disais que ça devient un lieu de plus en plus tendance, un lieu touristique de plus en plus tendance, c'est que sur la scène internationale, mais en fait, sur la scène locale, à l'échelle locale, il y a beaucoup d'Américains qui viennent déjà visiter, c'est ça?
Ah oui, oui. Oui, oui, d'Europe, de partout. Hein. C'est très typique du sud des années 1850, si on veut.
C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux voir l'Amérique, en gros, qui n'est pas des gratte-ciels, mais l'Amérique un peu à l'époque, encore une fois, pour reprendre un peu les images, pour que les gens se mettent en tête, un peu Forrest Gump, c'est vraiment la Caroline du Sud qui arrive à avoir tous ces paysages, toute cette architecture, tout ce patrimoine qui est encore bien préservé, oui, oui. C'est ça?
Et des très très belles maisons, des gros colonnes,
ça se visite ça? Ça se visite pas ça?
Tout visite. Il y en a, je sais pas, peut-être 20 maisons où on peut visiter.
Ah, tu veux dire les grandes propriétés qui se visitent ah bon?
Ouais, voilà, des grandes propriétés, des grandes fermes, si on veut. C'est un peu dur en français pour moi pour expliquer comment vraiment pour se mettre pour que tu peux regarder.
Non, mais je vois, parce qu'en plus j'ai une image, tu sais, pareil, encore une fois, d'un film culte que j'adore qui est Forrest Gump, c'est vraiment ces grandes allées avec des arbres, mais très touffus, qui s'entremêlent, et tout au fond, tu as cette espèce de grande maison blanche coloniale avec des colonnes, où tu sais, et d'un côté, c'est à la fois très épique, genre tu dis, t'as l'impression qu'il y a des cavaliers qui vont arriver, enfin tu sais, c'est énorme, et à la fois, de ce que, encore une fois, je suis pas allé, mais t'as une grande sérénité qui a l'air d'émaner de ce lieu, tu sais, ce côté où genre c'est à la fois grandiose et à la fois super calme, tu sais, à la fois genre très apaisant. Enfin, c'est ce que je ressens. Après, à toi de me dire si je me trompe. Hein.
C'est exactement ça. C'est parfaitement dit. Hein. C'est exactement ça. Et avec et dans ces maisons-là, on pouvait aller taper à la porte en disant, écoute, on a le pneu éclaté dehors. Est-ce qu'on peut, viens. Va chercher ta femme, viens manger un petit coup, et puis on appellera le gars plus tard ou rester là. Et c'est vraiment, c'est inconnu aux États-Unis. Moi, je suis venu là, et même ma femme, quand elle va à la poste, il y a un Canadien qui travaille là depuis 25 ans, il va pratiquer son français parce qu'il sait que ma femme, elle est française. J'étais dans un truc. Quand nous, on va en France, on va pendant 3 semaines, dans un mois. On appelle les polices du local et on dit, tiens, on s'en va le 1er juin. OK, vous revenez quand? Le 25. OK, il y a quelqu'un qui va être chez toi? Non, personne. Dis-moi les voitures qui vont être dans la...
C'est vraiment familial, en fait. C'est vraiment super simple.
Écoute, ils envoient un gars, il va chez toi, il fait le tour de la maison tous les jours. Pendant que tu es en vacances, pour être sûr que tu es tranquille, que ça se passe bien, que tu es tranquille en vacances, c'est de l'inconnu, quoi. C'est vraiment les États-Unis, c'est les villages de France, quoi. C'est la différence entre Paris, Los Angeles, ou Morvan et Charleston. C'est vraiment d'une gentillesse, d'un cool, des gens comme ça doit être.
C'est quoi tes lieux? Parce que tu dis que tu te balades souvent en bateau, mais que tu as vadrouillé aussi un petit peu en Caroline du Sud. C'est quoi tes lieux que tu préfères et pourquoi? Les lieux que tu préfères dans l'état de Caroline du Sud?
Aussi, il y a la Savannah, c'est dans la Géorgie, c'est un peu le même style aussi, c'était encore un port très important. Ouais. Mais ce qui est bien aussi, que j'aime la moto, et il y a plein de petites villes, il y a plein de petits restaurants de familiales où il y a le papy, le mamie qui font que le petit-déj. C'est tout ce qu'ils font. Et puis pour faire les balades, tout ça en moto, et puis on s'arrête, on prend les pancakes ou les waffles ou des trucs traditionnels américains dans un petit truc avec 3-4 places ou juste un coin, un mec qui vend le poulet frit au bord de la route derrière son camion le jeudi entre 3h et 4h, quoi. Mais tout le monde sait. Il y a des gens qui font la queue, qui attendent. Ou un mec qui font les crevettes, il en vend le dimanche entre midi et 2 parce qu'il est venu de la pêche et il se met ça au bord de la route avec un go couleur avec la glace et les crevettes qu'il a chopées de la journée, quoi. Donc c'est vraiment l'Amérique inconnue pour les Européens. Et puis moi, c'est ce que je cherche. Quand j'y vais en France, moi, j'aime Paris, mais je préfère aller dans la Dordogne et d'aller au marché et parler avec le papy qui était chercher les chanterelles.
On sent le connaisseur, là.
C'est des trucs comme ça. Et ça, c'est Charleston. Il y a les gens, il y a un marché local, et il y a les gens qui font les petits bijoux, les petits trucs comme dans
beaucoup. Justement, est-ce que tu as des noms de villes où tu as peut-être des petits coins secrets, tu veux peut-être pas dire, mais tu sais, dans le reste de l'État, parce que je pense que les gens, et surtout les Français qui viennent en vacances ou en voyage aux États-Unis, ils font souvent des road trips, tu sais, ils prennent la voiture et puis ils font pas mal de kilomètres, ils vont, ou alors justement s'ils viennent même à Charleston en Caroline du Sud, ils vont prendre une voiture pour sillonner un petit peu les alentours. Est-ce qu'il n'y a pas un petit lieu sympa, un petit truc genre tu dis là, si vous allez là, c'est vraiment canon?
Ouais, pour moi c'est Charleston, hein. C'est déjà Charleston. Le reste de l'État, c'est grand comme État, et il n'y a pas beaucoup. Tout l'argent, c'était au bord de l'eau, quoi. Donc, on peut faire toute la côte. Il y a plein de petits villages. Plein de petits villages comme Bufaine aussi, Beaufin, on dirait en français. Bufaine, j'essaie de penser les autres. Tout ce qu'on peut faire, si on suit la côte, c'est là où il y a vraiment de l'argent, quoi.
À l'époque coloniale, voilà, c'est là.
L'époque, dans toutes les belles maisons, toutes les belles villes, toutes les petits trucs sympas, c'était tout. On peut suivre carrément la côte de la Floride, même si on arrive à Miami, on fait Miami, Orlando, on peut faire tout ça, monter à Savannah, et puis de faire...
Et après, tu viens de poser, tu viens découvrir, justement, tu vas jusqu'en Caroline du Sud, passer quelques jours.
Et on reste on fait toute la côte. Il y a plein, même plus loin que Caroline du Sud, il y a Myrtle Beach aussi, c'est encore Caroline du Sud. Il y a toute la côte, c'était vraiment là où il y avait tout l'argent, tous les bateaux qui venaient d'Europe et tout ça.
Ouais, bien sûr.
Et ils venaient pour déposer ce que eux ils avaient à vendre et pour acheter ce que nous on avait à les échanger. Donc toutes les sous et les grandes fermes et les grandes
C'est près de la côte, en fait. Et quand tu t'éloignes un peu, quand tu vas dans les terres, c'est quoi? C'est des parcs nationaux, c'est très sauvage, c'est très nature.
Voilà, c'est la forêt.
Beaucoup de forêt,
beaucoup de lacs aussi. C'est sympa aussi. C'est des gens ils veulent faire ça. On peut louer les maisons au bord de lacs. En plus, c'est vraiment pas cher. Et puis c'est des lacs magnifiques. Ils ont même les bateaux qui vous laissent avec la maison.
C'est cool
à voir aussi.
C'est trop cool ça. Attends, parce que nous, il n'y a pas des lacs comme ça. Nous, on n'en a pas tant que ça. Et je veux te dire qu'il y a 2000 personnes autour. Attends, du coup, c'est quand tu dis que c'est pas cher, c'est quoi? C'est 100 euros, 200 euros la nuit, 50 euros la nuit?
Ouais, 200, à 200, 300 euros la nuit, mais on a une maison.
Tu rentres à 8 dedans, quoi.
Oh, 16.
Ah, ok, d'accord. 16. Ouais, donc on peut prendre des petits chalets plus petits alors.
Non, c'est vraiment des belles, très, très, très belles deux murs qui sont au bord du lac avec deux étages. Nous, on fait souvent ça comme petites vacances et on fait ça. Ce qui est important pour moi, pour les Français qui sont fous un peu de temps de voyage ou quand on vient ou quand on fait des trucs comme ça, c'est trouver les semaines pas chères parce qu'on s'en fout, il fait beau tout le temps. Donc, même au mois de novembre, on est à 30 degrés.
Il y a un microclimat ou quoi en Caroline du Sud?
Non, c'est magnifique. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on loue les maisons la semaine avant le Thanksgiving aux États-Unis. Personne n'utilise. Donc, on a une maison à 6000 pieds carrés, un truc énorme, et avec même un bateau. Et on peut se balader sur l'eau, rester, pêcher, faire un petit feu dehors. Et puis, l'aménagement, comme jamais on voit en France, quoi. Il y a au bord de, il y a à Nice, il y a à Cannes, il y a des trucs comme ça. Mais on a ça autour d'un lac, Charleston, quoi. À 1 heure de Charleston.
Ah ouais, t'es en train de dire que t'as une maison de fou, super bien aménagée, au milieu de la nature, mais pour 200 balles la nuit, quoi. Ou 100 balles la nuit, c'est en fonction de la taille que tu prends.
Et aussi, il y a des petits trucs pas chers, si on s'en fout de l'aménagement, quoi. Ouais. Si on veut vraiment faire le pique-nique, on a des gamins, on n'a pas trop de budget, ça, on fait aussi. Et il y a des petites maisons où on est toujours, c'est propre, c'est net, mais c'est pas grandiose, il n'y a pas l'énorme télé, il n'y a pas
non,
le
mais
bar.
Non, mais c'est les petites cabanes au bord de l'eau, là, c'est les petits trucs, c'est ça qu'on aime.
Voilà, non, c'est ça, c'est sympa. C'est comme si, comme dans le Morvan, au lac de Seton, autour, mais il y a 8 maisons qu'autour de ces maisons, autour de ces lacs-là, c'est les lacs qui font, je ne sais pas combien de 1000 kilomètres
kilomètres carrés, ouais.
Des trucs énormes, quoi. C'est des trucs. C'est un peu difficile parce que même, je me rappelle quand j'étais gosse en France, les gamins, ils disaient. Oui, mais moi, j'étais de Los Angeles. Mon père, son meilleur copain, il habite sur Sunset Boulevard aussi. Et je dis, Sunset Boulevard, il fait 22 kilomètres. Donc, c'est sûr que je ne veux pas le connaître, le gars. Donc, des fois, c'est un peu difficile de voir la grandeur des États-Unis quand on voit que la France, elle rentre dans Texas. Donc, une des États.
Bien sûr. Ouais, donc, en fait, juste la Caroline du Sud, tu as des lacs. Bah ça c'est à moi, c'est mon lac, c'est voilà, il fait 10 kilomètres carrés, c'est mon lac, ça va avec la maison, si tu le loues, ça, il y a un bateau qui va avec et tout, non ça c'est...
Voilà, c'est sympa, et puis il y a les jet skis, les trucs, pour moi c'est des super vacances, ça. Donc même pour les gens, pour voir un peu différent, on peut venir à Charleston, ou même de louer une maison comme ça, à 1 heure de Charleston, et de venir faire la journée à Charleston, et faire des... Il y a aussi un endroit qui est sympa pour les gens, c'est à Mount Pleasant, c'est juste au-dessus, c'est là où j'habite, c'est à 3 km de downtown Charleston, quoi. Ouais. Et il s'appelle Shem Creek, S-H-E-M, Shem Creek, et c'est là où il y a toutes les pêcheurs de crevettes, ouais. Et c'est là où ils mettent tous leurs bateaux dans la nuit, quoi. Donc tous les crevettiers, je sais pas si on dit ça, c'est
ouais,
peut-être
c'est
un
moi
mot.
Je dirais pas mieux, un crevettier, c'est très bien. Je sais pas, donc, je pense que c'est ça en plus.
Et bien, et puis c'est là où ils gardent leur bateau pour la nuit. Et toutes les tu t'imagines toutes les petites dauphins et tout ça qui suivent les bateaux comme ça, parce que c'est là où il y a de la...
Ça veut dire que ouais, t'es quasiment sûr. C'est donc, net, mais t'es quasiment sûr de voir des dauphins, parce que vu qu'il y a des crevettes qui doivent s'échapper un peu, c'est génial.
Donc, faire du canoë ou de faire du board, des trucs comme ça, on peut le faire, et les dauphins, ils sont à 1 mètre de nous, quoi. Donc ça s'appelle Shem Creek, et il y a plein de restaurants. Shem Creek, S-H-E-M, Shem Creek à Mount Pleasant, et c'est à l'autre côté du pont de Charleston, quoi. Donc il y a un grand bateau de aircraft carrier, je sais pas comment on dit ça en français, un gros bateau qui porte avion, voilà,
ah,
c'est
porte-avion.
Ça.
Okay,
un
ouais,
porte avion
ouais.
À visiter, il y a un sous-marin, il y a des trucs très touristiques à faire aussi, il y a des visites en français, quand même ma femme elle fait aussi, donc si les Français ils veulent venir, ma femme elle fait les tours des tours de Charleston.
On va mettre les coordonnées de ta femme dans la description du podcast pour ceux qui veulent faire des tours en français, clairement. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller manger aussi dans le resto de Bob, on met là spécifiquement, même si apparemment il y a plein de restos, mais ce serait quand même cool d'aller aussi faire un tour dans le tien.
Ce que je fais, c'est que je fais plus de restaurants. J'ai fait, ça fait 40 ans cette année, et maintenant je fais des cours de cuisine. Donc les gens ils viennent, je paye un canon, tout le monde boit un petit coup. Et puis on se met un tablier, tout le monde autour d'une énorme, un grand table, et tout le monde on coupe, on hache, et puis j'envoie tout le monde au fourneau, et on fait poêler, et réduction de vin blanc, et met un peu de beurre, met un peu de terre estragon, un peu de sel poivre, et puis donc on travaille des produits locaux, et chacun assiette, et puis on s'assoit tout le monde avec un verre de blanc, donc je souvent les vins, beaucoup, même tout le temps les vins français, Après, on se lève et puis on fait une viande avec des viandes locaux, des cailles ou du bœuf. Et puis on vit une viande. Après, on mange la viande, on boit un coup de vin rouge. Après, on se lève, on fait un dessert. Et puis
attends, mais c'est des ateliers qui durent combien d'heures?
3 heures.
Ah ouais, quand même.
Et puis, c'est des gens de New York, du Canada, de France, d'Allemagne, des gens, des touristes et des locaux. Et c'est souvent qu'il y a des gens. Et j'ai fait que 12. Il n'y a que 6 coupes. Donc, les gens, ils sont autour d'une grande table. Et puis,
c'est une bonne activité, ça, à faire, ça. Parce qu'en plus, tu dis que tu travailles les produits locaux. Donc, en plus, c'est sympa de découvrir aussi ce qui se fait sur place.
Et puis surtout de se connaître, quoi, parce que ça se fait beaucoup en France, mais beaucoup moins aux États-Unis. Tout le monde va au restaurant avec des potes, des trucs comme ça, mais de se faire inviter et de faire des dîners chez des copains, ça se fait beaucoup moins, c'est parce qu'il y a tellement de restaurants, et puis c'est quand même pas cher, les restaurants. Donc c'est plus facile, il ne veut pas faire le nettoyage, c'est plus, on va dans le nouveau truc, et puis ça se passe comme ça. Donc des gens, ils aiment bien. Moi, ça fait 6 ans que je fais ça. Puis des gens, ils aiment bien parce qu'ils rencontrent des gens de partout dans le monde. Et tout le monde aime bien boire, tout le monde aime bien rigoler. Et puis je fais un peu comme je te parle. Hein, on rigole, on passe une bonne soirée. C'est pas trop sérieux. Et puis si tu es un chef, tu vas apprendre quelque chose. Si tu n'as jamais fait cuire un œuf, tu vas
savoir faire cuire un œuf. Et ce sera déjà très bien.
Voilà.
Est-ce que
un œuf en beurrette avec des trucs dessus, mais au moins tu vas faire un œuf, quoi.
Est-ce que t'as des anecdotes, tu sais, quand t'es arrivé en Caroline du Sud, des anecdotes de, je sais pas, de rencontres qui t'ont marqué, ou même plus récemment, mais où là où tu te dis ah ouais, c'est cool la Caroline du Sud, mais tu sais, une anecdote de quelque chose qui toi t'es arrivé directement, parce que tu disais que les gens sont sympas, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses qui te sont arrivées où tu te dis wow, là, je suis trop content d'être dans cet état-là, cet état des États-Unis, parce que ça ne me serait pas arrivé forcément ailleurs.
Ah ouais, ouais. Je crois que c'est surtout les autres chefs qui m'ont qui m'ont reçu comme les parce que c'est un peu la compétition en France. C'est pas les chefs, ils se connaissent, mais c'est quand même la compétition.
T'es un concurrent. Ouais, t'es sympa, mais t'approches pas trop.
Voilà. Voilà, Kikisi, ils m'ont reçu, ils ont fait des fêtes, ils m'ont invité. Tiens, la première semaine, je suis arrivé. J'ai fait 11 ans en France, j'ai jamais pu rencontrer Paul Bocuse. Pour moi, c'était le dieu de cuisine en France. Et j'ai fait un dîner, j'étais chez un autre chef 3 étoiles, chez la Maloise Chagny, et il m'a invité de faire la cuisine pour Paul Bocuse, mais avec lui, et il y avait, je sais pas, 7 ou 8 chefs. Et eux, ils ont fait la cuisine. Il m'a invité de faire partir de cuisinier. Mais Bocuse, il n'est pas venu en cuisine. Donc, je n'ai pas pu le rencontrer. Mais j'étais fier de faire le dîner. Et 11 ans en France, jamais pu faire Bocuse. C'était quelqu'un. Je n'ai pas pu aller au restaurant parce que je n'avais pas de sous. Et puis, j'avais 25 ans, quoi. Et j'ai bossé pour rien, quoi. Je faisais nourri-loger, quoi. Donc, je n'avais pas de sous. Et je suis arrivé à Charleston. Et il y avait un très grand restaurant à Somerville. C'est... une demi-heure de Charleston, c'est un relais château, le seul relais château du Caroline du Sud. Et le chef et le directeur, ils m'ont invité, ils m'ont dit « Bob, on a entendu que vous êtes le nouveau chef de Charleston Place Hotel, on aimerait bien, toi et ta femme, de venir, on fait un grand dîner, il y a Paul Bocuse et, je ne me rappelle plus, un autre chef français de Chicago, et on aimerait bien que vous veniez au dîner. » Je dis « Bah merde alors, donc j'arrive. » Et le seul cuisinier qui parlait français, le seul femme de Caroline du Sud qui parlait français, bah qui c'est qui s'assoit à table avec Paul Bocuse? Moi et ma femme. Donc 11 ans en France, jamais pu voir Bocuse. Une semaine à Charleston, invité à un dîner, et j'étais assis à côté de Paul Bocuse pendant 3 heures avec un lunch, un dîner, et puis on s'est raconté des conneries, c'était magnifique, et j'ai dit, tiens, ça, c'est quand même les gens sympas, c'est quand même un
endroit...
Attends,
mais ça devait être un signe de la vie de fou, c'est-à-dire que t'emménages, t'arrives en Caroline du Sud, tu dis, bon, voilà, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau challenge, voilà, et là, le mec dont t'es fan, c'est même pas que tu travailles pour lui ou que t'es en cuisine, c'est genre, t'es assis à côté de lui, petit dîner, on est bien.
Ah ouais. Et puis il a ramené des poulets de Brest, de France, il a ramené des truffes, ils ont fait un truc. J'ai toujours les photos.
Il
C'est, je
laisse
vois les
avoir un
photos.
sacré supplément bagage, à mon avis.
Ah non, c'était génial. Et puis c'était vraiment le côté sud comme jamais moi pensais d'inviter un truc que le nouveau chef, même le chef de la boîte qui invitait Bocuse, bah lui il n'était pas à table, il était à une autre table. Mais ils s'en foutaient parce qu'ils étaient fiers que quelqu'un local pouvait parler français. Et puis ça faisait bien pour Charleston. Ça faisait, y avait pas de compétition. Il n'y avait pas de bah, pourquoi lui il est à table là-bas et moi je suis pas. C'était pour moi c'était et puis c'était normal et simple. Et j'avais pas ça à Los Angeles. Et puis les gens ils m'ont dit pourquoi t'as pas travaillé, t'as jamais pas travaillé à Paris. Je dis c'est malheureux à dire, mais pour moi Paris c'est Los Angeles quoi. Je préférais être à Tours, à Reims, à Saint-Étienne, c'est peut-être pas le meilleur, plus jolie ville de. Je me rappelle, j'étais chez Gagnère à Saint-Étienne, et puis il y avait même les Français qui me disaient, bah dis donc, France, même les corbeaux, quand ils volent au-dessus de Saint-Étienne, ils volent à l'envers, comme ça, ils n'ont pas besoin de regarder Saint-Étienne, quoi. C'était peut-être pas l'endroit le plus joli, mais
Mais toi,
c'était
t'es
quand même
bien.
très, très, très sympa. Les meilleurs copains que j'ai eus de France, ils sont de Saint-Étienne, de Saint-Galmier, de là-bas. Donc, j'ai trouvé ça à Charleston et des gens, ils me disent, bah, ça ne te manque pas la Californie? Je dis, pas du tout. Des gens sont tellement chaleureux. J'ai fait des super copains et je tiens, je te raconte un truc. Il y a un Français,
Vas-y.
un copain français qui est arrivé à Charleston et lui, il racontait ça quand il est arrivé de Nice. Il était de Nice et il me dit, ma première journée, je suis arrivé et je suis avec ma femme et ma fille, elle avait 3 ans. On est au bord de la route et on a le pneu éclaté et il y a un camion qui arrête à côté de moi et il me dit, t'as un problème? Il me dit, et je parlais pas trop bien. J'ai dit à ma femme, tu restes dans la voiture, tu fais gaffe, tu fermes les voitures, tu fermes la porte et tout ça. Et le mec, il est venu, il me dit, tiens, tu ouvres le derrière, je t'aide. Il me dit, j'ai compris un peu qu'il voulait m'aider, mais j'avais le tournevis, le truc, j'allais lui taper sur la tête s'il me faisait quelque chose, tu vois, j'étais
J'étais
prêt.
méfiant, t'étais méfiant, quoi, t'étais méfiant.
Il me dit, le mec, il a ouvert mon coffre, il a sorti le cric du truc, il m'a levé le truc, il m'a fait voir comment ça se passe avec une voiture d'occasion que je ne connaissais pas du tout. Et le mec, il a changé ma pneu, je lui ai donné des sous, il m'a levé la main comme non, non, c'est bon, have a good day. Et il m'a dit, c'était du jamais vu, j'ai dit, c'est là où je veux vivre maintenant. Et c'est ça la Caroline du Sud, c'est ça Charleston. Je ne peux pas parler pour la Caroline du Sud, pour tout l'État, mais pour
Waouh.
moi, c'est un endroit qui n'a pas changé, ça fait 25 ans que je suis là,
Mais en
et
plus, ce qui est
ça
fou.
grandit petit à petit. Mais c'est un endroit très, très, très typique des États-Unis, inconnu. Il y a des petits
C'est
villages
vrai.
comme on aime bien voir en France. Et donc ça, c'est tout à fait ça. Si vous voulez voir d'autres choses que les grandes villes, les grands bâtiments, c'est magnifique, hein? New York, magnifique. Los Angeles, magnifique. Mais si on va voir vraiment le Forrest Gump des États-Unis,
Ah non, mais
c'est...
tu sais que Forrest Gump, c'est super connu. Là, les gens, ils vont se dire, What? C'est là-bas que je dois aller? Non, mais
Ouais.
en plus, pour avoir vu quelques photos passer, encore une fois, je vais pas trop me spoiler, mais j'ai vu des photos de la Caroline du Sud, en fait, où je voyais des plages de sable blanc avec la forêt au bord de la plage et la mer. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi cet état? C'est genre, il y a de la forêt, il y a la plage, il y a la mer, et en fait, c'est pas du tout des choses auxquelles on est habitué, en fait, parce que c'est pas du tout ça, en fait, les images des États-Unis qu'on a en tête, et je trouve que c'est vraiment surprenant. Et en plus, quand tu rajoutes un peu la couche de bah, super accueil, super sympa, super convivial que tu nous racontes. Je comprends pourquoi ça devient de plus en plus tendance en fait cet état, tu vois.
Et puis surtout, les très, très, très belles hôtels, les petits hôtels tenus par les papys depuis 50 ans,
C'est génial ça.
et surtout très propres, et je sais pas comment on dit safe. Comment on
Safe,
dit que
ouais, c'est
c'est.
y a pas de problème de sécurité là-bas. C'est super.
Voilà.
Ouais, on dit safe.
Très, très important qu'on on connaît pas un endroit, il y a les endroits qui craignent, c'est inconnu aux États-Unis, et en plus c'est la ville qui veut ça. vous ne pouvez pas peindre la maison à quelle heure que vous voulez. Vous pouvez pas, si vous coupez pas l'herbe devant, on va le couper et on vous envoie la facture.
Parce que parce qu'ils veulent que ce soit propre, que ce soit tenu nickel et tout. Ah ouais, d'accord.
Pour les gens, que des gens ils viennent et il y a des petites carriage rides, je sais pas comment on dit ça, derrière un petit chariot derrière les chevaux qui font les tours de la ville aussi, avec des gars qui racontent. Et puis ça s'appelle Spanish Moss, c'est ça qui pendouille un peu sur les grands arbres qui flottent. C'est un calme, c'est une ville où on peut marcher, on n'a même pas besoin de voiture. On peut vendre.
Aux États-Unis. Attends, Bob, attention, ne vends pas un truc. J'ai jamais vu une ville aux États-Unis où tu n'avais pas besoin de voiture. T'es sûr de toi là?
Pas de voiture. On voit, il y a les vélos partout dans la ville où on peut louer pour rien. Et donc des gens ils se baladent, mais on n'a même pas besoin de vélo. On peut marcher à pied.
Ok. C'est vraiment les petits villages. Enfin, c'est vraiment petit village des États-Unis typique. En fait, c'est un peu ça le coin de la Caroline du Sud. C'est vraiment ça. Il y a deux questions par lesquelles j'aime bien terminer ce podcast, Bob. La première, c'est si je te donnais les clés de la DeLorean. Tu sais, c'est la voiture dans Retour vers le futur, Back to the Future. Tu vois, si je te donne les clés de la DeLorean pour revivre un seul moment de toutes tes années, de tes 25 ans en Caroline du Sud, ce serait lequel?
Ce serait le dîner avec Bocuse. Ce serait le lunch. C'était un des moments pour moi. C'était grandiose. Pour ma femme aussi, ça a aidé aussi. Tu sais, de quitter ta famille en France, de venir et de voir, de s'asseoir à table avec le dieu de la cuisine du monde, finalement, pour moi. Et de s'asseoir avec lui, de raconter des conneries et d'avoir une gentillesse. Et que lui, au même, il dise, pas dis donc, c'est bravo, ils sont quand même sympas, les Américains. Il me dit, j'ai fait New York, j'ai fait Los Angeles, j'ai fait Chicago, j'ai fait Détroit. J'ai dit, ces gens-là, et puis surtout dans un demi-mur de Forrest Gump, quoi, dans une grande, très belle maison sud-ouest, quoi. Et il est sorti en disant, c'est quand même un endroit magnifique, quoi. Donc, c'était quelque chose de grandiose. Et surtout, la gentillesse des gens et le respect. Ça se manque partout dans le monde, ça. Et puis moi, le respect des gens, quelqu'un qui ouvre la porte, il ouvre la porte pour la mamie, on voit quelqu'un qui fait tomber un truc, il va le chercher, il le ramène, il court après dans la rue pour lui donner. Pour moi, c'est un minimum, mais ça se perd, quoi. Donc,
justement, pour moi, si tu devais résumer un peu l'état d'esprit et la mentalité de la Caroline du Sud en une phrase, une citation ou une punchline, ça serait laquelle?
C'est dur. Je dirais, c'est l'Amérique.
C'est l'Amérique. voilà, exactement. Voilà une belle phrase. Écoute, Bob, je te remercie énormément pour ce partage qui vient du cœur, de cette vie que tu as choisi de vivre aux États-Unis en Caroline du Sud, de nous avoir filé toutes ces petites anecdotes, ce ressenti, de nous avoir fait découvrir avec tes yeux, à ta façon, cet état, encore une fois, qui reste très méconnu en France, mais qui est vraiment en train de monter. Et on comprend, enfin moi en tout cas, je comprends mieux pourquoi. Évidemment, internaute, si tu veux aller faire un petit cours de cuisine, si tu passes à Charleston avec Bob, le lien il est dans la description du podcast. Si tu veux faire une petite visite en français, évidemment, il y a le lien aussi pour sa femme qui fait les visites. Et puis, si tu veux en savoir plus, je mettrai 2-3 liens aussi pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble et mettre 2-3 photos de la Caroline du Sud. Super. En tout cas, Bob, je te remercie beaucoup.
Très gentil, merci beaucoup. Venez me voir.
Bien sûr. Moi, je vais venir. Je vais venir faire un petit tour. Je te dis à très vite. Et encore, merci beaucoup, Bob. Ciao, internaute. Et je te dis aussi à très vite. Ciao.
Allez, ciao.